Bonjour à vous. Je vais vous donner lecture d'un article écrit par une lectrice signée Jodem, à la suite de la première partie des forêts du Morvan que vous avez pu lire la semaine passée. En lisant ce court récit, je retrouve des sensations éprouvées dans les forêts de mon pays d'Hôte, où j'ai vécu une dizaine d'années, juste après la guerre au cours de laquelle des événements graves s'étaient produits dans le pays. J'ai vu aussi des charbonniers, immigrés d'Italie, des hommes d'apparence sombre, frustes, venus d'un pays qui, la veille encore, était notre ennemi. Je me souviens que l'un de ces hommes a perdu l'esprit pour avoir respiré les émanations toxiques des meules de charbon. Ils furent emmenés en Italie. Quelque temps après, on apprit qu'il y avait été soigné et guéri. Cet épisode m'a laissé une impression forte qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui, car dans ce village, composé de hameaux dispersés, la nouvelle fut transmise peu à peu, en quelques paroles brèves, mais l'enfant que j'étais ressentit que les villageois, gens taciturnes et durs à la tâche, étaient tous profondément heureux d'apprendre la guérison de l'étranger. Mystère du cœur humain. Voilà, moi je vais continuer donc par les forêts du Morvan. Le charbon de bois prenait naissance d'une pyramide de branches droites, sèches, recouvertes de glaise. Le feu couvait au centre, nuit et jour. Un temps déterminé par les charbonniers faisait consumer les branches qui devenaient noires et friables. Une petite cheminée en forme de trou se trouvait en haut de la pyramide. Que de choses apprises et données par les charbonniers, deux superbes cornes de chevreuil, du miel d'abeilles sauvages qu'ils maraudaient comme des ours qu'ils étaient. Il n'en est plus maintenant de charbonniers, ou bien dans d'autres pays dits sous-développés. Les bûcherons, les charbonniers, Louis et compagnie m'ont appris les arbres. J'ai vu les arbres marqués en rouge sur leur tronc pour la mort. J'ai assisté à la mise à mort. Je revois les outils, les cognées de diverses grandeurs avec leurs manches polies comme des galets roulés par la mer. Ces manches étaient passées de main calleuse en main calleuse, les coins que l'on fiche en bas des troncs à coups de cognée pour les enfoncer au creux des reins de l'arbre afin de diriger sa chute, son fracas. Les scies à deux mains pour les sieurs de long. Un homme à chaque bout faisant jaillir du tronc scié la sève, le sang, la chair de l'arbre et toujours cette odeur âcre et douce à la fois de la sève libérée. J'en ai passé des après-midi entiers, un livre pelu près de moi, hébété de la chaleur moite des sous-bois, chassant les insectes, suçant une tige verte de menthe sauvage pour apaiser ma soif, ou buvant l'eau d'une source glacée, me trempant les pieds dedans, ce qui faisait crier au bûcheron « Petiote, tu vas te glacer les sangs !» À l'heure la plus chaude du jour, tous dormaient, tout dormait, la scie des cognées et des scies scintillaient quelques rayons de soleil fusant entre les hautes branches. C'était un éclair lumineux qui changeait d'endroit selon la brise et la hauteur du soleil dans le ciel. Je ronronnais, rêvassais, les bras repliés sous la tête sur un oreiller de fougère ou sur une veste de toile en pestant le vieux tabac. Parfois j'entendais, à travers le tissu, le tic-tac de la montre à gousset de Louis qu'il tenait de grand-père. Je m'amusais à y entremêler le tic-tac et les battements de mon cœur au repos. J'avais l'impression, à ces moments-là, que le temps était suspendu, arrêté à l'heure présente, que la fin du jour ne viendrait pas, que tout resterait comme dans l'instant présent, le monde, moi, la forêt, Louis qui dormait la bouche ouverte sur ses dents de loup. Mais il fallait scier, fendre, faire les fagots pour allumer les cheminées. Chaque famille recevait, par la commune, son bûcher descendu de la forêt dans des chariots. Grosses bûches, plus petites, et fagots. L'importance du bûcher était proportionnée à l'importance de la famille. Chacun l'entassait le long d'un mur, sous un toit, pour qu'il sèche. Il fallait encore savoir l'entasser et prendre la bonne bûche, car pour une bûche mal posée, c'était la déroulade. Des poules allaient quelquefois pondre en perte sous les fagots. Les chiens de grand-père avaient nuitamment mené une vie d'enfer tant et si bien qu'on avait allumé la lampe tempête, que je possède encore, et avait ouvert la porte pour voir une fouine, gobeuse d'œufs, déguerpir dessous les fagots. Plus tard, elle se fit prendre par je ne sais plus quel piège. Si vous avez écrit une nouvelle qui n'a pas été éditée, ou si vous souhaitez écrire un récit, contactez-nous sur redaction@valeurs.fr. Nous envisageons de le faire paraître dans cette rubrique. Au revoir, à bientôt.